soutien à Dieu, sont contre ce qui se fait en ce moment, la mise en place de ce conseil militaire de transition. Même chose au niveau des organisations tchadiennes de la diaspora. Là-bas aussi, on parle de coup d'État. Donc, le ton général est une opposition à la mise en place de ce conseil et l'exigence que les choses se fassent selon la constitution tchadienne.
Alors, Roland Marshall, en 2008 et 2019, le régime d'Idriss Déby a survécu grâce à l'intervention de la France, n'est-ce pas? Avec cette dernière offensive du FACT, on a vu beaucoup d'appels, aussi bien d'activistes que même de membres de ce groupe armé, qui demandent à la France, entre guillemets, de ne pas sauver Déby cette fois-ci. Qu'est-ce qui a changé pour vous pour que Paris n'intervienne pas militairement?
Non, si vous voulez, je ne crois pas. Je crois que Paris est intervenu. Paris a fourni des renseignements militaires extrêmement importants à Idriss Déby pour mener sa contre-offensive, qui a réussi, hein, puisque c'est au moment du retrait des rebelles qu'il y a eu cette jonction avec avec une colonne d'Idriss Déby et où il y a eu une bataille. Donc les Français ont joué le rôle qu'ils ont toujours joué au Tchad en fournissant des renseignements d'ordre militaire sur la composition des rebelles, leur nombre, les directions dans lesquelles ils se déplaçaient. Et simplement, il y a eu ce comportement d'Idriss Déby, bon, qui là aussi est relativement habituel d'aller sur la ligne de front, peut-être pour dynamiser ses combattants. Et cette fois-ci, il s'est retrouvé face à son destin.
Et Sidi Kaba, le Tchad a quand même connu beaucoup de rébellions armées depuis l'indépendance. Déby lui-même, issu de la rébellion, a eu à défaire plusieurs groupes armés. Qu'est-ce qu'on sait de ce groupe FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde de Tchad, qui a pris racine en Libye?
Bon, profitant de la situation de confusion qui s'est installée en Libye après le départ de Kadhafi, après la chute de Kadhafi et son décès, des Tchadiens, notamment certains de la diaspora, une partie de l'élite qui dirige aujourd'hui cette rébellion, étaient exilés en France, en région parisienne et un peu dans la région d'Angers, se sont réorganisés, se sont installés dans le sud libyen, ont collaboré avec des milices armées libyennes, puis ont pu acquérir du matériel, se sont organisés, et ont pris la direction. Il s'agit d'un mouvement rebelle, principalement composé de Goran, des gens qui sont d'une autre ethnie que celle des Déby, l'ethnie Zagawa, de Toubou, donc qui se sont organisés un peu dans le sud libyen, profitant de la confusion, qui ont acquis du matériel et qui ont profité aussi du contexte intérieur, parce que la justification de cette rébellion-là, c'est aussi le fait d'absence de perspective au plan politique dans le pays, le fait que le jeu politique était totalement verrouillé par Déby. Et les gens ne voyaient pas de perspective, surtout à la veille d'un sixième mandat. Donc les gens auraient eu à attendre encore six ans pour espérer une alternance à la tête du Tchad, et ça a accéléré leur agenda, surtout lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles la présidentielle s'est tenue. Un boycott de la plupart des grands partis politiques, et puis le verrouillage du jeu qui faisait qu'on avait une élection présidentielle jeu d'avance.
Oui, donc Timothée, comme l'a dit Sédic, les derniers événements politiques, notamment les élections, semblent avoir précipité tout cela. Mais après 30 ans de pouvoir de Déby, où l'opposition a toujours dénoncé son exclusion, est-il envisageable d'avoir une transition civile et des élections dans un délai raisonnable?
C'est ce qu'on verra par rapport à cette situation. Le Conseil militaire de transition parle d'une transition de 18 mois, mais en même temps, la charte de cette transition n'indique pas clairement que les membres de la transition ne seront pas candidats aux prochaines élections. Donc il y a une vraie confusion qui prévaut en ce moment, et ça va être difficile de respecter les délais que se donne ce comité militaire de transition.
Et il y a un général qui a fait une sortie un peu pour dénoncer cette transition, en l'occurrence le général Diko. Qu'est-ce qu'on sait un peu de cette situation?
Alors le général Diko explique qu'il représente une bonne partie de l'armée, il a une bonne partie de l'armée avec lui, c'est ce qu'il dit. Et ils étaient tous au front, et alors qu'ils étaient en route pour N'Djamena, ils ont appris qu'un groupe d'officiers supérieurs a décidé de mettre sur pied le comité militaire de transition. Il dit que c'est un groupe d'amis et que ce comité n'est pas du tout représentatif du Tchad dans sa diversité. Il dit aussi que l'armée est une armée républicaine qui doit défendre les institutions. Et il note que le peuple n'est pas d'accord avec cette façon de passer le témoin entre dirigeants du Tchad. Donc il dit que l'armée doit normalement être du côté du peuple. Et dit en tout cas lui et son groupe sont du côté du peuple et qu'il faut absolument que l'ordre constitutionnel soit respecté au Tchad.
D'accord, une situation de toute façon qu'on va suivre, n'est-ce pas? Et Roland Marshall, pensez-vous vraiment que la communauté internationale fait face à une sorte de dilemme ici, d'un côté éviter le chaos et d'un autre faire respecter la constitution en vue de la sortie des États-Unis qui demande le respect de la constitution, mais la France d'un côté semble respecter un peu la transition qu'on vient de voir, disons, pour ne pas dire continuité.
Oui, je crois que vous avez raison de souligner cette différence dans les réactions. Si vous voulez, je crois qu'il faut quand même que les gens comprennent, le Tchad n'est pas au bord du chaos. Vous avez des mouvements d'opposition armés qui existent, qui représentent, qui ont une certaine force, mais d'une certaine façon, ces mouvements n'ont pas de la capacité militaire aujourd'hui d'atteindre N'Djamena. Ils l'ont prouvé à différents moments, au-delà même de la question d'une intervention française. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on caractérise le Tchad d'Idriss Déby? Est-ce que c'est un pays, on dit toujours que lui, il a maintenu la stabilité. De quelle stabilité parle-t-on si dès que cet homme disparaît, le Tchad bascule dans le chaos? Donc je crois que la situation au Tchad, elle est tendue, elle est largement tendue parce que la compétition pour la succession, elle se passe à l'intérieur du secteur militaire et sécuritaire, et que tout le monde craint, à commencer par l'Élysée, visiblement, que ces compétitions se règlent à coups de Kalachnikov et de mortier. Et pas simplement par le débat politique et par une élection démocratique que le Tchad n'a plus connue depuis plus de deux décennies. Donc le vrai problème, c'est qui doit être l'acteur du changement au Tchad aujourd'hui. L'opposition politique a essayé de jouer le jeu de la légalité et qui s'est fait malmener, brutaliser par Idriss Déby et ses sbires qui sont aujourd'hui dans le comité militaire de transition. Ou est-ce que c'est les rebelles qui sont en Libye et qui essayent, en menaçant d'obtenir une partie du pouvoir, ou est-ce que c'est le fils de Déby, le clan qui a réduit, qui a vécu de la prédation des revenus de l'État depuis 30 ans, qui considère que vraiment la soupe est trop bonne pour la laisser à d'autres et qu'il faut, rester au pouvoir à tout prix en utilisant tous les arguties. Alors c'est ce débat-là que les chancelleries occidentales devraient avoir. Ce qu'on voit, c'est que la France a réagi très vite, sans consultation avec ses alliés occidentaux, européens et américains, qui défendent des points de vue différents. On le voit à la lecture des communiqués. Et puis surtout, parce qu'on voit qu'en France, il y a un lobby pour dire que les choses doivent continuer comme elles étaient, alors que la mort de Déby repose non seulement la question de l'avenir du Tchad, mais aussi la question de l'avenir de l'opération Barkhane et l'avenir de, disons, des pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la résolution de leurs problèmes intérieurs.
D'accord. D'accord. Alors, nous avons quelques commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Je vais juste en lire trois. Archiduc Théodore à N'Djamena nous dit que le maréchal Idriss Déby Itno avait bien défendu le Tchad contre la dictature infernale de Hissène Habré. Il serait une légende au Tchad s'il s'était retiré de la présidence à la fin de son mandat en août 2021. On ne lui souhaitait pas cela car il a été un libérateur. Il a été victime de son orgueil de soldat. Ousmane Yambré à Ouagadougou, au Burkina Faso, écrit « Considérons cette journée comme le début de l'enfer pour le peuple tchadien et l'ensemble de la sous-région. Le maréchal Déby était le seul président que les terroristes craignaient. La voie est maintenant libre. » Et puis Angelio Le Saint, il n'a pas précisé sa location. Il nous dit c'est une violation de la constitution tchadienne. L'Union africaine et l'Union européenne doivent condamner cette prise du pouvoir par le conseil militaire. Il faut respecter les institutions. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Pour la seconde partie de Washington Forum, et je rappelle nos invités. Ici à Washington, Timothée Donangmaï, chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. À Paris, Roland Marshall, chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique, avait également travaillé sur les conflits armés sur le continent. Et à Abidjan, Sédic Abba, écrivain, chercheur sur le terrorisme dans le Sahel. Alors, Roland Marshall, dès l'annonce de la mort de Idriss Déby, beaucoup ont certes pensé d'abord aux implications au Tchad, mais beaucoup d'autres ont pensé aux conséquences sécuritaires dans le Sahel. La lutte contre le djihadisme dans cette région va-t-elle forcément changer de visage?
Écoutez, de toute façon, elle devait changer de visage. Hein. On est depuis plusieurs mois dans une situation où le président français a reconnu que l'option du tout militaire pour comprendre et agir au Sahel ne fonctionnait pas et qu'il fallait, dans ses propres mots, que la crise au Sahel, c'était d'abord une crise de gouvernance, donc ça veut dire que ce n'est pas une crise liée au terrorisme hein, en premier lieu, même s'il y a une réalité terroriste. Et donc il fallait de toute façon, reprendre le traitement de cette crise et trouver une autre façon de poser les problèmes qui ne mettent pas sur le devant, en premier rang, la dimension militaire. Donc, d'une certaine façon, la disparition d'Idriss Déby et l'affaiblissement du dispositif militaire tchadien, puisque l'armée tchadienne va être divisée par les compétitions en son sein, ça devrait inciter la France, mais aussi les autres pays sahéliens, à se reposer le problème d'une transition beaucoup plus rapide vers un autre type d'action, peut-être beaucoup plus politique et portant sur des réformes de l'État et des réformes de la gouvernance dans le Sahel, et peut-être moins simplement sur le renforcement du dispositif militaire. On le voit bien à l'heure actuelle, une des questions qui est posée, dont on pourra reparler peut-être, c'est le fait que pour un certain nombre d'États de la région, Mali et Burkina Faso notamment, une série des groupes qui le combattent ne sont pas considérés comme vraiment des groupes groupes djihadistes, des groupes armés d'opposition très clairement, qui à l'occasion une rhétorique djihadiste et peut-être grâce à ça obtiennent des moyens pour mener la guerre, mais ce sont des groupes avec lesquels une discussion, voire une négociation est possible. C'est une voie possible de transformation, il y en a d'autres, et je crois que le véritable problème, c'est pourquoi est-ce que la France continue une option militaire en soutenant le fils d'Idriss Déby, parce que ce n'est pas simplement un comité militaire de transition, c'est aussi le fils du père, ce qui donne une allure très monarchique à un pays qui n'est pas du tout désireux de ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a, cette continuité, alors que par ailleurs on appelle à des réformes très profondes dans l'action régionale et internationale sur le Sahel?
Alors, c'est-à-dire que Idriss Déby était généralement, comme on l'a vu dans les commentaires Facebook, était généralement bien vu dans des pays comme le Niger ou le Mali, où la bravoure des militaires tchadiens face aux djihadistes était souvent saluée. Comment la mort de Déby pourrait-elle influer sur la situation dans le Sahel?
Non, vous faites bien de rappeler que Déby a une bonne opinion, une bonne presse, entre guillemets, dans une partie de ce continent. Pour quelqu'un comme moi qui connaît bien le sud-est du Niger, la région de Diffa, où je suis originaire, Déby a une popularité qui dépassait largement celle du président Issoufou de l'époque. Parce que simplement, Déby avait envoyé son armée à Bosso, avait envoyé son armée à Diffa pour venir défendre face au groupe Boko Haram en l'occurrence. Avait envoyé son armée défendre. Donc, il y a une perception positive du régime. À mon avis, le plus important aussi, c'est de comprendre que la décision d'envoyer les soldats tchadiens sur les différents fronts, que ce soit au Sahel ou au bassin du lac Tchad, reposait sur la seule volonté du président Déby. Elle n'a fait l'objet ni d'une délibération du Conseil des ministres, ni d'une discussion à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le fait que Déby ne soit pas là ouvre une page d'incertitude sur la présence ou non de ce soldat français, de ce soldat tchadien dans cette zone-là. Et comme on l'a vu, les 1200 soldats qui sont arrivés dans la zone des trois frontières sont arrivés à cet endroit-là à la demande de la France et des pays sahéliens qui espèrent que cette présence va changer le rapport de force entre les groupes djihadistes et les forces des différents pays et la force marquante dans ces interventions.
Alors Timothée, il y a des voisins comme le Cameroun également, pour qui la stabilité du Tchad est vitale, surtout depuis la construction du pipeline Cameroun-Tchad, n'est-ce pas?
Tout à fait, et la coopération entre le Tchad et le Cameroun date de plusieurs années, depuis bien avant les indépendances, puisque le Tchad est un pays enclavé qui dépend beaucoup du port de Douala. Donc il y a toujours eu cette coopération entre les deux pays, et celle-ci s'est renforcée à la faveur de l'intervention des troupes tchadiennes dans l'extrême nord du Cameroun, dans la lutte contre Boko Haram. Voilà, donc c'est clair qu'au niveau du Cameroun, on suit de très près la situation à N'Djamena, parce qu'il pourrait y avoir des implications. Et si la situation se dégrade au Tchad, c'est clair que le Cameroun connaîtra un afflux de réfugiés. Même chose pour la République centrafricaine, où le président Déby jouait un grand rôle. Donc les voisins du Tchad, comme notre ami Cédric l'a dit, le Niger, et tous ces pays-là voient suivre de près ce qui se passe au Tchad et voudraient bien que les choses se stabilisent rapidement pour lever ce voile d'incertitude qui plane sur la sous-région.
Alors Roland Marchal, qu'en est-il par exemple du Soudan, un autre voisin du Tchad que vous connaissez d'ailleurs très bien, le Soudan qui est d'ailleurs en train de vivre sa propre transition?
Je crois que c'est sans doute dans la relation au Tchad que les choses vont être le plus compliquées. Pourquoi ? Si vous regardez la composition de l'armée tchadienne, vous avez dedans pas mal de Zagawa qui sont originaires en fait du Darfour. Si vous regardez également la composition des forces de réponse rapide, donc dirigées par M. Emeti au Soudan, vous avez pas mal d'anciens rebelles tchadiens qui ont été intégrés dedans. Alors c'est sûr que la mort d'Idriss Déby est en train de rebattre les cartes, et on peut estimer aussi, compte tenu de la situation au Darfour avec le départ de l'UNAMID et fondamentalement une montée au moins temporaire de l'insécurité, que certaines aventures militaires peuvent se reproduire, c'est-à-dire des groupes rebelles tchadiens se reformer, essayer de se sanctuariser dans des régions où le gouvernement soudanais aurait assez peu d'influence, et puis éventuellement essayer de mener quelques actions pour pouvoir être considéré par N'Djamena. Mais de la même façon, si vous voulez, vous allez avoir le fait que pour beaucoup de Zagawa, c'est pas une analyse politique, mais c'est la description d'une perception, l'État tchadien, c'était l'État Zagawa, puisque c'est vrai que c'était l'un des principaux, les Zagawa étaient aux principaux postes de commande, et donc vous pouvez aussi avoir un sursaut de la communauté visant à préserver le contrôle de cet État qui, quand même, a fourni des ressources importantes. Si on regarde le développement aux zones Zagawa, si on regarde tous les passe-droits dont les Zagawa ont pu bénéficier sous la présidence Déby au Tchad, on voit que on peut comprendre pourquoi aujourd'hui ils voudraient essayer de maintenir, de pérenniser cette situation. Donc on a des dynamiques politiques qui sont pas forcément dans la même direction, mais ce qu'on voit, c'est que très certainement la question de la situation au Darfour et des rapports entre Tchad et Soudan va être une question importante dans les semaines et les mois qui viennent. Je crois que c'est un peu moins vrai pour la Centrafrique. Dans la mesure où Idriss Déby avait quand même limité considérablement son soutien militaire aux groupes issus de la CEDECA, et où le problème en Centrafrique a évolué, c'est beaucoup plus aujourd'hui au niveau international, la question des rapports entre le gouvernement Touadéra et le président Touadéra et les Russes. Et le comportement des Russes qui fait débat beaucoup plus que la question de l'opposition des rebelles, qui est à la fois beaucoup plus inscrite dans l'économie centrafricaine et en même temps peut-être beaucoup moins forte qu'elle n'a pu être à une certaine période.
Alors Sadiq, comment est-ce qu'on peut éviter une dérive sécuritaire au Tchad qui déstabiliserait davantage une zone déjà fragilisée?
Je pense que la différence entre le Tchad et la Libye, c'est que lorsque Kadhafi est tombé, il a laissé derrière lui une sorte de supermarché de l'armement dans lequel la plupart des groupes sont venus s'armer, et aujourd'hui c'est en partie cette déstabilisation de la Libye que le Sahel et la sous-région payent, puisque la plupart des armes ont été prises là-bas, les groupes se sont formés, et la Libye a pu même constituer une sorte de base arrière de l'État islamique avant qu'il poursuive son action au niveau du Sahel. Donc il y a justement les conséquences de cette déstabilisation de la Libye. Il est évident que, comme il a été rappelé, si le Tchad venait à être déstabilisé, ça aurait un impact d'abord sur la lutte contre le terrorisme dans la zone, le bassin du lac Tchad et le Sahel, et ça ne ferait qu'accroître la fragilité de cette zone. N'oublions pas que les groupes terroristes, notamment ceux du Sahel, ont pour agenda de porter leur activité au-delà du Sahel, à la région du Golfe de Guinée. Si le Tchad est par exemple déstabilisé, c'est clair que ça donnerait des éléments pour la poursuite d'un tel agenda. Au plan politique aussi, la déstabilisation du Tchad.
Alors Tim, c'est un scénario qui vous inquiète également?
C'est une situation inquiétante, mais je ne pense pas qu'on puisse assister à une implosion comme ça a eu lieu à Libye après Kadhafi, où les gens se sont retrouvés par tribu, par région. Je pense qu'au niveau du Tchad, le pays est quand même assez brassé à ce stade pour qu'on n'en arrive pas à un tel scénario.
Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie mes invités. Merci également à vous qui nous avez suivis sur notre page Facebook et sur notre site voafrique.com. Et je n'oublie pas nos télépartenaires sur le continent ainsi que toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.